Italo Calvino, Marco Valdo ou les saisons en ville. Première cassette, deuxième piste, page 30, suite du chapitre 4, la ville sous la neige. À un certain endroit, au bord du trottoir, il y avait un tas de neige considérable. Marco Valdo se préparait à le niveler pour le ramener à la hauteur de ses murets, quand il s'aperçut que c'était une automobile. La luxueuse voiture, toute recouverte de neige, du Commendatore Alboino, A-L-B-O-I-N-O, le président du conseil d'administration de la SBAV. Commendatore, commandeur, et Cavaliere, chevalier, sont deux des titres honorifiques italiens accordés par l'ordre de la Couronne d'Italie et depuis 1951 par l'ordre de la République. C'est un petit peu comme, si tu veux, commandeur et chevalier de la Légion d'honneur en France. Étant donné que la différence entre une auto et un tas de neige était à peine sensible, Marco Valdo se mit à modeler à coups de pelle une automobile de neige. Elle fut très réussie. On ne pouvait réellement pas distinguer la vraie voiture de la fausse. Pour fignoler son œuvre, Marco Valdo se servit de quelques détritus mis à jour par sa pelle. Une boîte en fer-blanc tomba pile pour figurer la forme d'un phare et un bout de robinet fit office de poignée de portière. Il y eut tout un tas de saluts de la part des portiers, des huissiers et des garçons de bureau et le Commendatore Alboino franchit le seuil de la SBAV. Myope et dynamique, il se dirigea d'un pas vif et décidé vers sa voiture, empoigna le robinet qui dépassait, baissa la tête et s'enfonça dans le tas de neige jusqu'au cou. Marco Valdo avait déjà tourné le coin de la rue et déblayait la cour. La cour où des gosses avaient fait un bonhomme de neige. « Il n'a pas de nez !» dit l'un d'eux. « Qu'est-ce qu'on va lui mettre ?»« Bah, une carotte !» Ils se précipitèrent vers les cuisines familiales pour y fouiller dans les légumes. Marco Valdo contemplait l'homme de neige. Sous la neige, on fait guère de différence entre ce qu'est en neige et ce qu'en est seulement recouvert. Sauf pour l'homme, parce qu'on sait que moi, c'est moi et pas ce bonhomme de neige. Absorbé dans ses pensées, il ne s'aperçut pas que du toit deux hommes criaient « Hé, monsieur, tirez-vous de là !» C'étaient des gars qui déblayaient la neige des tuiles et brusquement, 300 kilos de neige lui tombèrent juste dessus. Les gosses revinrent avec des carottes. « Oh, ils ont fait un autre bonhomme de neige !» Au milieu de la cour, il y en avait maintenant deux, semblables et proches l'un de l'autre. « On leur met un nez à tous les deux !» Et les gosses enfoncèrent deux carottes dans les têtes des deux bonshommes de neige. Marco Valdo, plus mort que vif, sentit à travers toute cette neige qui l'ensevelissait et le congelait qu'il lui arrivait quelque chose à manger. Et il se mit à marcher. « Bon Dieu ! La carotte a disparu !» Les gosses étaient épouvantés. Le plus intrépide ne perdit pas courage. Il avait un nez de rechange, un poivron, et il le mit au bonhomme de neige. Le bonhomme de neige avala aussi ce nez-là. Alors, ils essayèrent de lui mettre un morceau de charbon en guise de nez, une briquette. Marco Valdo la recracha énergiquement. « Au secours, il est vivant, il est vivant !» Et les gosses s'enfuirent. Dans un coin de la cour, il y avait une grille d'où s'échappait un nuage de chaleur. Marco Valdo, de son pas lourd de bonhomme de neige, alla s'installer dessus. La neige se mit à fondre, coulant en rigole sur ses vêtements, faisant réapparaître un Marco Valdo tout gonflé de froid, tout en chiffonné. Il empoigna sa pelle, surtout pour se réchauffer, et se mit à déblayer la cour. Il avait une terrible envie d'éternuer qui s'était bloquée au sommet de son nez, qui restait là et ne se décidait pas à éclater. Marco Valdo déblayait, les yeux à demi fermés, et son éternuement restait toujours perché au sommet de son nez. Brusquement, là fut presque un grondement et le tchoum fut plus fort que l'explosion d'une mine. Par suite du déplacement d'air, Marco Valdo alla s'écraser contre le mur. En fait de déplacement d'air, c'était une vraie trombe que l'éternuement avait provoquée. Toute la neige de la cour se souleva, tourbillonna telle une tourmente et fut aspirée vers le haut, se pulvérisant dans le ciel. Quand Marco Valdo, revenu de son évanouissement, rouvrit les yeux, la cour était entièrement déblayée, sans le moindre flocon de neige. Et il revit alors la vieille cour, les murs gris, les caisses du magasin, les choses de tous les jours, anguleuses et hostiles. Printemps. Chapitre 5. Un traitement de choc. L'hiver s'en alla, laissant derrière lui les douleurs rhumatismales. Un léger soleil de midi venait égayer la journée, et Marco Valdo, assis sur un banc, passait une heure à regarder pousser les feuilles avant de retourner à son travail. Un petit vieux, tout voûté dans son pardessus reprisé, venait s'asseoir auprès de lui. C'était un certain monsieur Ridieri, retraité et seul au monde, habitué lui aussi des bancs ensoleillés. De temps en temps, ce monsieur Ridieri sursautait, criait « Aïe !» et se voûtait davantage encore dans son pardessus. Il collectionnait les rhumatismes, l'arthrite, les lombagos qu'il attrapait durant l'hiver humide et froid et qui ne le lâchaient pas de l'année. Pour le consoler, Marco Valdo lui détaillait les différentes phases de ses propres rhumatismes, de ceux de sa femme et de ceux d'Isolina, sa fille aînée, qui, la pauvrette, ne poussait pas tellement bien. Marco Valdo apportait chaque jour son déjeuner enveloppé dans du papier journal. Assis sur le banc, il défaisait son paquet et donnait le bout de journal tout froissé à M. Ridieri, qui tendait impatiemment la main en disant « Voyons un peu quelles sont les nouvelles. » Et il lisait son bout de journal avec un intérêt toujours égal, même s'il datait de 2 ans. Si bien qu'un jour, il y découvrit un article sur un traitement pour guérir les rhumatismes grâce au venin des abeilles. « Ça doit être avec le miel !» dit Marco Valdo, toujours porté à l'optimisme. « Non, expliqua M. Ridieri, ils disent avec le venin de l'aiguillon. » Et il lut quelques passages de l'article. Puis ils discutèrent longuement sur les abeilles, sur leurs vertus et sur ce que pouvait coûter le traitement. Dès lors, en marchant le long des avenues, Marco Valdo tendait l'oreille à tout bourdonnement, suivait de l'œil tout insecte volant autour de lui. Ainsi, observant les tours et détours d'une guêpe au gros ventre strié de noir et de jaune, il vit qu'elle se faufilait dans le creux d'un arbre et que d'autres guêpes en sortaient. Un bourdonnement, un va-et-vient qui signalait la présence d'un nid entier de guêpes à l'intérieur du tronc. Marco Valdo se mit immédiatement en chasse. Il avait un bocal de verre au fond duquel restaient encore 2 doigts de marmelade. Il le posa ouvert près de l'arbre. Bientôt, une guêpe bourdonna tout autour et entra dedans, attirée par l'odeur du sucre. Marco Valdo ferma vivement le récipient avec un couvercle de papier. Et dès qu'il aperçut M. Ridieri, il put lui dire, en lui montrant le bocal où la guêpe tournait furieusement, « Allez, allez, maintenant je vais vous faire une piqûre. » Le petit vieux hésitait, mais Marco Valdo ne voulait à aucun prix différer l'expérience et insistait pour opérer lui-même, là, sur leur banc. Il n'était même pas nécessaire que le patient se déshabillât. Avec crainte, mais aussi plein d'espoir, M. Ridieri souleva un coin de son pardessus, de son veston, de sa chemise, et écartant des tricots troués, découvrit un point de ses lombes qui lui faisait mal. Marco Valdo y appliqua le goulot du bocal et en arracha le couvercle de papier. D'abord, il ne se passa rien. La guêpe ne bougeait pas. S'était-elle endormie? Pour la réveiller, Marco Valdo donna un grand coup sur le fond du bocal. C'était exactement ce qu'il fallait faire. La guêpe fonça en avant et planta son aiguillon dans les lombes de M. Ridieri. Le petit vieux poussa un hurlement, se leva d'un bond et se mit à courir comme un soldat au pas de parade, en frottant ses lombes et en égrenant toute une kyrielle d'imprécations confuses. Marco Valdo était pleinement satisfait. Jamais le petit vieux n'avait été aussi droit, aussi martial. Mais un agent de police venait de s'arrêter près d'eux et regardait de tous ses yeux. Marco Valdo prit M. Ridieri par le bras et s'éloigna en sifflotant. Il rentra chez lui avec une autre guêpe dans son bocal de verre. Convaincre sa femme de le laisser lui faire une piqûre ne fut pas une petite affaire, mais finalement il y parvint. Pour une fois, Domitilla ne récrimina pas. Elle ne se plaignit seulement un peu que d'une sensation de brûlure. Marco Valdo se mit à capturer frénétiquement des guêpes. Il fit une piqûre à Isolina, une deuxième à Domitilla, car seul un traitement systématique pouvait être efficace. Puis il se décida à se faire piquer également. Les gosses, on sait comme ils sont, disaient « Moi aussi, moi aussi !» Mais Marco Valdo préféra leur donner un bocal à chacun pour qu'ils capturassent de nouvelles guêpes afin de pourvoir à la consommation quotidienne. Monsieur Rizzieri vint le voir chez lui. Il était accompagné d'un autre petit vieux, le cavaliere Ulrico, qui traînait la jambe et voulait commencer immédiatement le traitement. Tout cela ne tarda pas à se savoir. Marco Valdo travaillait maintenant en série. Il avait toujours une demi-douzaine de guêpes en réserve, chacune dans son bocal de verre qu'on voyait sur une étagère. Il appliquait le bocal sur le dos des patients, comme s'il s'agissait d'une seringue, ôtait le couvercle de papier et, quand la guêpe avait piqué, frottait avec un coton imbibé d'alcool de l'air désinvolte d'un médecin chevronné. Son logement ne se composait que d'une seule pièce où dormait toute la famille. Ils la divisèrent à l'aide d'un paravent improvisé. D'un côté, le salon d'attente, de l'autre, le cabinet de consultation. La femme de Marco Valdo introduisait les clients dans le salon d'attente et encaissait les honoraires. Les gosses prenaient les bocaux vides et couraient du côté du nid de guêpes pour se réapprovisionner. Quelquefois, une guêpe les piquait, mais ils ne pleuraient plus car ils savaient que c'était bon pour la santé. Cette année-là, les rhumatismes s'étendirent sur la population comme les tentacules d'une pieuvre. Le traitement de Marco Valdo connut un grand succès. Et le samedi après-midi, il vit sa pauvre mansarde envahie par une petite foule d'hommes et de femmes souffrant, se tenant le dos ou la hanche, quelques-uns pareils à des clochards, d'autres ayant l'air de gens aisés, attirés par la nouveauté de cette thérapeutique. « Vite !» dit Marco Valdo à ses trois garçons, « prenez les bocaux et allez m'attraper le plus de guêpes que vous pourrez. » Les gosses partirent aussitôt. C'était une journée de soleil et de nombreuses guêpes bourdonnaient dans l'avenue. Les garçons avaient l'habitude d'opérer à quelque distance de l'arbre où se trouvait le nid, cherchant surtout à attraper des guêpes isolées. Mais ce jour-là, Michelino, pour aller plus vite et en prendre davantage, se mit à chasser à proximité de l'entrée du nid de guêpes. « C'est comme ça qu'on fait !» disait-il à ses frères, et il cherchait à attraper les guêpes en plaquant brusquement son bocal sur celle qui se posait. Mais chaque fois, les guêpes s'envolaient pour aller se poser encore plus près du nid. Maintenant, il y en avait une qui se tenait exactement sur le bord de la cavité du tronc d'arbre, et Michelino était sur le point d'abattre son bocal quand il vit et entendit deux autres grosses guêpes foncer sur lui comme si elles voulaient le piquer au visage. Il voulut les éviter, mais il sentit la piqûre des aiguillons et, hurlant de douleur, lâcha le bocal. L'appréhension de ce qu'il avait fait lui fit immédiatement oublier sa douleur. Le bocal était tombé à l'intérieur du nid. On n'entendait plus le moindre bourdonnement et plus aucune guêpe ne sortait. Michelino, n'ayant même plus la force de crier, recula d'un pas quand un épais nuage noir sortit en trombe du nid avec un bourdonnement assourdissant. C'étaient toutes les guêpes qui avançaient en un essaim furieux. Ses deux frères entendirent Michelino pousser un hurlement et le virent partir en courant comme il n'avait jamais encore couru de sa vie. On aurait dit qu'il marchait à la vapeur, tellement ce nuage qu'il traînait derrière lui ressemblait à la fumée d'une cheminée. Où donc un enfant court-il quand on le poursuit? Chez sa mère, naturellement. Ainsi fit Michelino. Les passants n'avaient pas le temps de comprendre ce qu'était cette apparition qui, tenant du nuage et de l'être humain, filait dans les rues comme une flèche en grondant et en bourdonnant. Marco Valdo était en train de dire à ses clients « Un peu de patience, les guêpes vont arriver. » Quand la porte s'ouvrit et l'essaim envahit la mansarde. On ne vit même pas Michelino qui courut plonger sa tête dans une bassine d'eau. Toute la pièce fut remplie de guêpes et les patients se démenaient en tentant vainement de les chasser. Les rhumatisants faisaient des prodiges d'agilité et les membres noués se décontractaient en mouvements furieux. On appela les pompiers, puis la Croix-Rouge. Couché dans son lit d'hôpital, gonflé, méconnaissable du fait des piqûres, Marco Valdo n'osait pas répondre aux injures que ses clients lui lançaient des autres lits de la salle. Été. Chapitre 6. Un samedi de soleil, de sable et de sommeil. Pour vos rhumatismes, avait dit le médecin de la mutuelle, il vous faudrait de bons bains de sable. Et Marco Valdo, un samedi après-midi, explorait les bords du fleuve, cherchant un endroit ensoleillé où il y aurait du sable bien sec. Mais là où il y avait du sable, le fleuve n'était que grincement de chaînes rouillées. Les dragues et les grues étaient au travail. Des machines aussi vieilles que des dinosaures creusaient dans le fleuve et déversaient d'énormes pelletées de sable dans les camions des entreprises de construction qui stationnaient parmi les saules. Les godets des dragues montaient droit à la file, redescendaient, retournaient. Les grues hissaient au bout de leur long cou un goitre de pélican tout ruisselant de la boue noire du fond. Marco Valdo se baissait pour tâter le sable, l'écrasait dans sa main. Il était humide, du limon, de la vase. Même là où se formait au soleil une croûte sèche et friable, il était encore mouillé au-dessous d'un centimètre. Les gosses de Marco Valdo, que celui-ci avait emmenés avec lui dans l'espoir qu'il l'aiderait à se recouvrir de sable, ne tenaient plus en place tant ils mouraient d'envie de se baigner. « Papa, papa, on va plonger, on nage ?»« Vous êtes fou, il y a une pancarte, il est dangereux de se baigner. » On se noie et on tombe au fond comme des pierres. Et Marco Valdo leur expliquait que là où le fond du fleuve est creusé par les dragues, il se forme des entonnoirs vides où le courant s'engloutit en remous et en tourbillons. Le tourbillon ! Fais-nous voir le tourbillon, papa ! Pour les gosses, le mot sonnait joyeusement. On le voit pas. Il vous prend par le pied pendant que vous nagez et il vous entraîne au fond. Et celui-là, pourquoi qu'il va pas au fond? C'est quoi, un poisson? Non, c'est un chat crevé, expliqua Marco Valdo. Il flotte parce que son ventre est plein d'eau. Le tourbillon, il prend le chat par la queue? Demanda Michelino. La pente de la rive herbeuse, en un certain endroit, s'élargissait en formant un terre-plein où se dressait un grand tamis. Deux ouvriers étaient en train de tamiser un tas de sable, à coups de pelle, et toujours à coups de pelle, chargeaient le dit sable sur un grand bateau noir et bas, une espèce de péniche qui se balançait mollement, attachée à un saule. Malgré la canicule, les deux hommes, des barbus, travaillaient en veston et chapeau, mais tout cela déchiré et graisseux, avec des pantalons en lambeaux qui s'arrêtaient aux genoux, laissant les jambes et les pieds nus. En voyant ce sable qu'on avait laissé sécher des jours et des jours, ce sable fin, séparé des scories et clair comme du sable de mer, Marco Valdo se dit que c'était là ce qu'il lui fallait. Mais il l'avait trouvé trop tard. Déjà, on le tassait dans la péniche pour l'emporter. Non, pas encore. Les ouvriers, ayant achevé leur chargement, dirent deux mots à une fiasque de vin, et après se l'être passé deux fois et avoir bu à la régalade, s'étendirent à l'ombre des peupliers pour laisser passer la grosse chaleur. Tant qu'ils resteront là à dormir, je pourrai me coucher dans leur péniche et faire mes bains de sable, pensa Marco Valdo. Et s'adressant aux gosses, il leur dit à mi-voix, « Vite, aidez-moi !» Il sauta dans la péniche, ôta chemise, pantalon, chaussures et se glissa sous le sable. « Recouvrez-moi de sable avec la pelle, » dit-il au gosse. « Non, pas la tête. Elle me sert à respirer et doit rester dehors. » Tout le reste, pour les gosses, c'était un peu comme quand on fait des châteaux de sable. « On fait des pâtés ? Non, un château fort avec des créneaux. Penses-tu, on pourrait faire une belle piste pour jouer aux billes, oui ?»« Maintenant, filez !» souffla Marco Valdo de dessous son sarcophage de sable. « Non !» « Mettez-moi d'abord un chapeau de papier sur le front et sur les yeux. » Et puis sautez sur la rive et allez jouer plus loin. Sans ça, ces deux bons hommes vont se réveiller et me forcer à décamper. On peut te faire naviguer sur l'eau en tirant le bateau par sa corde, proposa Filippetto. Et déjà, il avait à moitié détaché l'amarre. Marco Valdo, immobilisé, tordait la bouche et roulait les yeux pour les gronder. « Si vous ne partez pas tout de suite et si vous m'obligez à sortir de là-dessous, je vous assomme à coups de pelle !» Les gosses se sauvèrent aussitôt. Les rayons du soleil dardaient, le sable brûlait, et Marco Valdo, ruisselant de sueur sous son petit chapeau de papier, éprouvait à demeurer là, à cuire, immobile, ce sentiment de satisfaction que donnent les traitements pénibles ou les médicaments désagréables quand on se dit « plus c'est mauvais, plus c'est signe que ça fait du bien ». Il s'endormit, bercé doucement par le courant qui tendait un peu la mare et la détendait un peu. Tendu et détendu, le nœud que Filippetto avait déjà à demi défait se détacha complètement. Libre, la péniche chargée de sable descendit le cours du fleuve. C'était l'heure la plus chaude de l'après-midi. Tout dormait. L'homme enseveli sous le sable, les plateformes des embarcadères, les ponts déserts, les maisons qu'on apercevait, persiennes closes, au-delà des murs. Le fleuve était presque à sec, mais la péniche, poussée par le courant, évitait les sèches de vases qui affleuraient de temps en temps, ou bien il suffisait d'une légère secousse sur le fond pour la remettre à flot. À l'une de ces secousses, Marco Valdo ouvrit les yeux. Il vit le ciel tout ensoleillé où passaient les nuages bas de l'été. « Comme ils vont vite, » pensa-t-il, « et dire qu'il n'y a même pas un brin de vent. » Puis il vit des fils électriques. Eux aussi couraient comme les nuages. Il tourna son regard de côté autant que le lui permettaient les 100 kilos de sable qui pesaient sur lui. La rive droite était lointaine, verte, et courait également. La rive gauche était grise, lointaine, courante aussi. Il comprit qu'il voguait au milieu du fleuve. Il appela, personne ne lui répondit. Il était seul, enseveli dans un bateau de sable qui allait à la dérive sans rame ni gouvernail. Il savait qu'il aurait dû se lever, essayer d'aborder, appeler au secours. Mais en même temps, il se disait que les bains de sable réclamaient une immobilité complète, et cette pensée l'emportait, lui faisait sentir qu'il se devait de rester là, sans bouger, le plus longtemps qu'il pourrait, afin de profiter au maximum de sa cure. Soudain, il vit le pont, et aux statues et aux lampadaires qui ornaient la balustrade, à la largeur des arches qui se découpaient sur le ciel, il le reconnut. Il ne pensait pas être arrivé si loin. Et tandis qu'il entrait dans la zone d'ombre que les arches projetaient sous elle, il se souvint de la dénivellation. Une centaine de mètres après le pont, le fleuve faisait un saut. La péniche, entraînée par la cascade, allait se retourner et il risquait de couler, coincé sous le sable et le bateau, sans le moindre espoir de s'en tirer vivant. Mais même à ce moment-là, son principal souci, c'était encore que les bénéfiques effets de son bain de sable allaient être perdus sur le champ. Il attendit la chute. Elle se produisit. Mais ce fut un plongeon de bas en haut. En cette période de sécheresse, des bancs de vase où parfois se voyaient de petites touffes de roseaux et de joncs s'étaient amoncelés au bord du seau. La péniche vint s'échouer dedans de toute sa carène plate, faisant rebondir l'entier chargement de sable et l'homme qui s'y trouvait enseveli. Marco Valdo fut projeté en l'air comme par une catapulte et de ce fait vit le fleuve sous lui, ou plutôt non, il ne le vit pas, il vit seulement le grouillement de gens dont le fleuve était plein. Le samedi après-midi, une énorme foule de baigneurs envahissait cette partie du fleuve où l'eau n'arrivait seulement qu'au nombril. Des gosses y parbotaient par écoles entières, et des grosses dames, et des messieurs qui faisaient la planche, et des filles en bikini, et de jeunes pharaons qui luttaient. et des matelas en caoutchouc, des ballons, des bouées de sauvetage, de vieux pneus d'auto, des barques à rames, des périssoirs, des petits bateaux marchant à la godille, des canots pneumatiques, des canots à moteur, des canots de sauvetage de la brigade fluviale, les yoles de la société des canotiers, les pêcheurs avec des filets, d'autres avec des lignes, des vieilles dames à ombrelles, des demoiselles à chapeau de paille, et des chiens, du caniche au Saint-Bernard. Si bien qu'on ne voyait même pas un centimètre d'eau dans tout le fleuve. Marco Valdo, voltigeant, volant, ne savait pas s'il allait tomber sur un matelas de caoutchouc ou dans les bras d'une matrone junonienne, mais il était au moins sûr d'une chose, c'est que pas une seule goutte d'eau ne l'effleurerait. Automne. Chapitre 7. La gamelle. Le plaisir qu'on tire de ce récipient rond et plat qu'on nomme gamelle, c'est d'abord qu'il se dévisse. Déjà, le fait d'en dévisser le couvercle vous met l'eau à la bouche, surtout quand on ne sait pas encore ce qu'elle contient, parce que, par exemple, c'est votre femme qui vous la prépare chaque matin. Une fois qu'on en a ôté le couvercle, on voit le manger qui s'y trouve. Des saucisses aux lentilles ou des œufs durs avec des betteraves, ou bien encore de la polenta avec de la morue. La polenta, c'est une sorte de galette faite avec de la farine de maïs. Tout cela bien rangé dans cet air circulaire, comme le sont sur la map monde les continents et les mers. Et même s'il n'y a pas grand-chose, on a cependant l'impression que c'est substantiel et compact. Une fois dévissé, le couvercle sert d'assiette, si bien qu'on a alors deux récipients, et qu'on peut trier le contenu de la gamelle. Marco Valdo, après avoir dévissé le couvercle et aspiré goulûment la bonne odeur de son repas, tire de sa poche le couvert empaqueté qu'il emporte toujours avec lui, depuis qu'à midi il mange avec sa gamelle, plutôt que de retourner chez lui. Les premiers coups de fourchette servent à réveiller un peu cette nourriture engourdie, à donner l'aspect et l'attrait d'un plat tout juste servi, à ces mets qui sont restés là recroquevillés durant plusieurs heures. Alors, on commence à s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose, et on se dit, il vaut mieux manger lentement, mais on a déjà rapidement et avidement porté à sa bouche les premières fourchettées. D'abord, on ressent toute la tristesse d'un repas froid, mais bientôt on redevient joyeux en retrouvant la bonne odeur de la table familiale transporté dans un décor inhabituel. Marco Valdo s'est mis à mastiquer lentement. Il est assis sur un banc d'une avenue, près de l'endroit où il travaille. Comme il habite loin, et que retourner chez lui à midi lui fait perdre du temps et dépenser pas mal de tickets de tramway, il emporte son déjeuner dans la gamelle achetée spécialement et le mange en plein air en regardant passer les gens. Puis il va boire à une fontaine. Si c'est l'automne et qu'il fait beau, il choisit une place que réchauffe un rayon de soleil. Les feuilles rousses et brillantes qui tombent des arbres lui servent de serviette. Les pots de saucisson, il les donne à des chiens errants qui ne tardent pas à devenir ses amis. Et les miettes de pain profiteront aux moineaux dès que l'avenue sera déserte. Tout en mangeant, Marco Valdo s'interroge. Pourquoi que la cuisine de ma femme me fait plaisir quand je la mange ici, alors qu'à la maison, avec les disputes, les larmes, les dettes dont on parle à tout bout de champ, elle me dit plus rien du tout. Puis il se dit, « Ah, maintenant je me rappelle, tout ça c'est des restes d'hier. » Et voilà qu'il est de nouveau de mauvaise humeur, peut-être bien parce qu'il est obligé de manger des restes froids et rancis, peut-être aussi parce que l'aluminium de la gamelle donne au mets un goût de métal, mais une pensée tourne sous son crâne. V'là que rien que l'idée de Domitila me gâche les déjeuners que je fais tout seul sans elle. À ce moment, il s'aperçoit qu'il a presque fini son repas, et de nouveau il lui semble que ce qu'il mange est quelque chose de savoureux, de rare. Et il achève avec ardeur les dernières bouchées qui sont au fond de la gamelle, celles qui sentent le plus le métal. Puis, regardant le récipient vide et graisseux, voilà qu'il redevient tout triste. Alors il enveloppe et empoche le tout et se lève. Il est encore trop tôt pour retourner au travail. dans les grandes poches de sa grosse veste, les couverts jouent du tambour sur la gamelle vide. Marco Valdo se rend dans un débit de boisson et se fait servir un verre de vin rempli à ras-bord ou bien dans un bar où il sirote un café. Puis il regarde les gâteaux dans leur vitrine, les boîtes de bonbons et de nougats, se persuade qu'il n'en a pas envie, qu'il ne désire vraiment rien. Suit un moment de l'œil une partie de baby-foot, histoire de se convaincre qu'il cherche à passer le temps et non pas à oublier qu'il a encore faim. Il regagne la rue. Les trams sont de nouveau bondés. L'heure est proche où il lui faut retourner travailler. Il y va. Quelques jours plus tôt, pour des raisons strictement personnelles, sa femme Domitila avait acheté un lot de saucisses. Et trois soirs durant, Marco Valdo dîna de saucisses au navet. Or, ces saucisses-là devaient être des saucisses de chien. Leur seule odeur suffisait à lui couper l'appétit. Quant au navet, ces légumes pâles et fuyants, c'étaient précisément les seuls végétaux que Marco Valdo n'avait jamais pu sentir. À midi, de nouveau, une saucisse au navet dans sa gamelle, une saucisse froide et graisseuse. Distrait comme il était, il dévissait toujours le couvercle avec curiosité et gourmandise, sans se souvenir de ce qu'il avait mangé la veille au dîner. Et chaque jour, il était aussi déçu. Le quatrième jour, il planta sa fourchette dans sa saucisse, la sentit encore une fois, se leva de son banc et tenant à la main sa gamelle ouverte, il se mit à marcher distraitement dans l'avenue. Les passants, surpris, regardaient cet homme qui se promenait avec une fourchette dans une main et une gamelle où l'on voyait une saucisse dans l'autre. On aurait dit qu'il ne se décidait pas à porter à sa bouche la première fourchettée. Une voix d'enfant le héla. « Hé, toi, monsieur !» Marco Valdo leva les yeux. Un enfant se tenait à la fenêtre d'un bel hôtel particulier, les coudes appuyés sur le rebord de la dite fenêtre où était posée une assiette. « Hé, monsieur, qu'est-ce que tu manges ?»« De la saucisse au navet. »« Vénard !» dit l'enfant. « Hein ?» fit vaguement Marco Valdo. « Quand tu penses que je devrais manger de la cervelle frite ?» Marco Valdo regarda l'assiette placée sur le rebord de la fenêtre. Il y avait dedans une cervelle frite, moelleuse et bouclée comme un amoncellement de nuages. Les narines de Marco Valdo en frémirent. « Pourquoi t'aimes pas la cervelle ?» demanda-t-il à l'enfant. « Non, ils m'ont enfermé ici pour me punir parce que je ne voulais pas la manger. Mais moi, je vais l'acheter par la fenêtre. »« T'aimes la saucisse ?»« Oh oui, on dirait une couleuvre. Chez nous, on n'en mange jamais. »« Alors tu me donnes ton assiette et je te passe ma saucisse. »« Bravo !» L'enfant était tout content. Il tendit son assiette de porcelaine et une fourchette d'argent ciselée à Marco Valdo et celui-ci lui donna sa gamelle avec sa fourchette d'étain. Puis ils se mirent tous deux à manger. L'enfant sur le rebord de la fenêtre, Marco Valdo assis sur un banc qui se trouvait en face. Tous deux se pourléchant les babines et se disant qu'ils n'avaient jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Quand brusquement, derrière l'enfant, apparut une gouvernante, les mains sur les hanches.
« Mon Dieu, mon petit monsieur, mon Dieu, mais que mangez-vous là ?»«
De la saucisse !» dit l'enfant.
« Et qui vous l'a donné ?»«
Ce monsieur-là !» Et il montra Marco Valdo, qui interrompit sa lente et soigneuse mastication d'un morceau de cervelle.
« Qu'entends-je ? Voulez-vous jeter cela, vite ?»«
Mais c'est bon !»«
Et votre assiette, votre fourchette ?
C'est le monsieur qui les a !» Et il montra de nouveau Marco Valdo, qui tenait en l'air sa fourchette, où était encore enfilé un morceau de cervelle. La gouvernante se mit à crier
« Au voleur ! Au voleur ! Il a pris les couverts !»
Marco Valdo se leva, regarda un moment la cervelle frite, dont il restait encore une moitié, s'approcha de la fenêtre, posa sur son rebord assiette et fourchette, fixa dédaigneusement la gouvernante et s'en alla. Il entendit la gamelle rouler sur le trottoir, les pleurs de l'enfant, le claquement de la fenêtre qu'on refermait brutalement. Il se baissa pour ramasser la gamelle et son couvercle. Ils étaient un peu cabossés. Le couvercle ne se vissait plus bien. Il fourra le tout dans sa poche et se rendit à son travail. Hiver. Chapitre 8. Le bois sur l'autoroute. Le froid se manifeste dans le monde sous mille formes et mille façons. Il court sur la mer comme une troupe de chevaux, s'abat sur les campagnes comme une nuée de criquets. En ville, c'est une lame de couteau qui fend les rues et se glisse dans les interstices des maisons sans chauffage. Ce soir-là, chez Marco Valdo, on avait brûlé les dernières brindilles et toute la famille, enveloppée de manteaux, regardait les braises s'éteindre dans le poêle et la buée qui s'échappait des bouches au souffle de chacun. Ils se taisaient. La buée parlait pour eux. Domitila l'exhalait à longs traits comme des soupirs. Les enfants absorbaient comme s'il s'agissait de bulles de savon. Quant à Marco Valdo, il la lançait vers le plafond par saccades, comme des éclairs de génie aussitôt avortés. À la fin, Marco Valdo prit une décision. « Je vais aller chercher du bois. Avec un peu de chance, j'en trouverai peut-être. » Il glissa 4 ou 5 journaux entre sa chemise et son veston pour se protéger des coups de froid, dissimula une longue scie sous son pardessus et sortit dans la nuit, sa famille le suivant jusqu'au seuil d'un œil plein d'espoir, cependant qu'il émettait à chaque pas un bruit de papier froissé et que la scie dépassait par à-coups du col de son pardessus. Aller chercher du bois en ville, facile à dire. Marco Valdo se dirigea tout de suite vers un petit bout de jardin public qui se trouvait entre deux rues. Tout était désert. Marco Valdo examinait un à un les arbres dénudés, pensant à sa famille qui l'attendait en claquant des dents. Le petit Michelino, claquant justement des dents, lisait des contes de fées dans un livre emprunté à la bibliothèque de son école. Le livre racontait l'histoire d'un enfant, fils de bûcheron, qui, armé d'une hachette, allait chercher du bois dans une forêt. « V'là où il faut aller, dit-il, dans la forêt, c'est là qu'il y a du bois. » Né et ayant grandi en ville, Michelino n'avait jamais vu de forêt, même de loin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il s'entendit avec ses frères. L'un prit une hachette, un autre un crochet, un autre encore une corde. Ils dirent au revoir à leur mère et se mirent en quête d'une forêt. Ils allaient par la ville à la lumière des réverbères et ne voyaient rien que des maisons. Pas l'ombre d'un bois, d'une forêt. Ils croisaient parfois de rares passants, mais n'osaient pas leur demander où était le bois. Ils arrivèrent ainsi à la sortie de la ville, là où finissaient les maisons, où la rue se transformait en autoroute. Alors, de chaque côté de cette autoroute, les gosses virent enfin le bois. Un bois avec beaucoup d'étranges arbres qui cachaient la plaine, des arbres aux troncs minces, droits ou penchés, avec de grandes chevelures plates, d'un aspect fort étrange et de non moins étranges couleurs, quand une auto passant les éclairait de ses phares. Des branches en forme de dentifrice, de visage, de fromage, de main, de rasoir, de bouteilles, de vaches, de pneus, constellées de tout un feuillage de lettres de l'alphabet. « Hurrah !» dit Michelino, « on est dans le bois !» Ses trois frères regardaient fascinés, la lune se lever entre ces étranges ombres. « Ce que c'est beau !» Michelino leur rappela immédiatement le but de leur expédition, le bois pour le poêle. Si bien qu'ils abattirent un arbrisseau qui rappelait une prime vert jaune, le débitèrent en morceaux et le ramenèrent à la maison. Quand il revint avec une maigre brassée de branchages humides, Marco Valdo trouva le poêle allumé. « Où que vous avez pris ça ?» s'exclama-t-il en désignant les restes du panneau publicitaire qui, étant en contreplaqué, avait brûlé très très vite. « Dans le bois !» dirent les enfants. « Quel bois ? Le bois de l'autoroute, il y en a tout plein !» Vu que c'était aussi simple que ça et qu'il fallait encore du bois, autant valait suivre l'exemple des gosses. Marco Valdo sortit de nouveau avec une scie et gagna l'autoroute. L'agent Astolfo de la police de la route avait la vue un peu basse, et la nuit, faisant son service à motocyclette, il aurait eu besoin de lunettes, mais il ne le disait pas, de peur que cela ne nuise à son avancement. Ce soir-là, on avait signalé qu'une bande de gamins abattait les panneaux publicitaires de l'autoroute. L'agent Astolfo décida d'aller voir ce qu'il en était. Maintenant, de chaque côté de l'autoroute, d'étranges silhouettes réprobatrices et gesticulantes accompagnent Astolfo qui, fronçant ses yeux de myope, les examine une à une. Et voici qu'à la lueur du phare de sa machine, il surprend un galopin grimpé sur un panneau. Astolfo freine.
Hey, « Hé toi, qu'est-ce que tu fais là-haut? Veux-tu descendre tout de suite ?»
Mais le galopin en question ne bouge pas et lui tire la langue. Astolfo s'approche et voit qu'il s'agit d'une réclame pour un petit fromage avec un gros bébé qui se pourlèche. « Oui, oui, » dit Astolfo, et il repart à toute allure. Peu après, dans l'ombre d'un grand panneau, voilà qu'il éclaire un triste visage effrayé.
« Bougez pas et essayez pas de filer !»
Mais personne ne file. C'est un douloureux visage humain représenté au beau milieu d'un pied couvert de corps. Une publicité pour un coricide. « Faites excuse, » dit Astolfo. Et il repart en toute hâte. Un panneau vantant des comprimés pour combattre la migraine représentait une gigantesque tête humaine, les mains devant les yeux, tellement elle souffrait. Astolfo passe devant et son phare éclaire Marco Valdo qui, grimpé tout au sommet du panneau, tente de s'en couper un bout avec sa scie. Ébloui par la lumière, Marco Valdo se fait tout petit et demeure immobile, cramponné à l'une des oreilles de l'énorme tête, avec sa scie qui en est déjà à la moitié du front. Astolfo regarde bien attentivement et dit « Ah oui, les comprimés stoppent vite. Un bon panneau, ça, bien trouvé. Ce petit bonhomme là-haut avec sa scie représente la migraine qui coupe la tête en deux. Je l'ai tout de suite compris. » Et il repart satisfait. Tout est gel et silence. Marco Valdo pousse un soupir de soulagement, se redresse sur son bout de contreplaqué mal commode et reprend son travail. Le grincement amorti de la scie sur le bois se propage dans le ciel baigné de lune. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 59, Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino.
Il était devenu un étranger, un étranger du larme et le cœur lui restait fermé. Elle lui songeait souvent. Se demandant d'où venait sa prête à son abandon. Est-ce un signe, la vie? C'était une fausse. N'y avait-il plus rien pour elle dans l'avenir? S'il n'y a été demeuré beau, joyeux, élégant, intelligent. Peut-être que ça le veut plus tard. Une vie, le dit de Maupassant, fin de la deuxième piste de la deuxième bande.